Bonsoir. L'exploitation actuelle des forêts congolaises est illégale et constitue un véritable pillage des forêts de ce pays. C'est en résumé ce que révèle un nouveau rapport de l'ONG britannique Global Witness, publié la semaine dernière à Kinshasa. L'ONG indique que pour la seule province du Bandundu, par exemple, au moins 146 permis d'exploitation ont été délivrés entre 2010 et 2012, consommant ainsi un espace équivalent à 11 000 terrains de football au lieu de 50 hectares seulement comme l'exige la loi. Comment analyser cette situation et que faire pour y remédier? Pour en parler, nous recevons Michel Boto Basakala, conseiller en charge de la réforme institutionnelle au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Monsieur le conseiller Boto, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Bobia, coordonnateur du réseau Ressources Naturelles. Monsieur Bobia, bonsoir.
Bonsoir.
Jean de Dieu Minengo, chef des travaux à l'Université de Kinshasa. Il est expert en environnement et développement. Monsieur Minengo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Merci, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Dieudonné de la province orientale, pourquoi toujours attendre les rapports des ONG dans tous les domaines pour réagir? Que font nos autorités provinciales? Jacob Kalinga de Kinshasa, les ONG exagèrent aussi quelquefois. Pendant que le gouvernement est en train d'amorcer la reconstruction, les rapports continuent à pleuvoir comme si les choses pouvaient changer en un jour. À travers le monde, vous nous suivez sur RadioCapi.net. Merci de nous recevoir chez vous.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
L'ONG britannique Global Witness a publié jeudi dernier un nouveau rapport selon lequel l'exploitation actuelle des forêts de la RDC est illégale et constitue un véritable pillage des forêts de ce pays. L'ONG indique à titre d'exemple que pour la seule province du Bandundu, au moins 146 permis d'exploitation ont été délivrés entre 2010 et 2012, consommant ainsi un espace équivalent à environ 11 000 terrains de football au lieu de 50 hectares seulement comme l'exige la loi. Tona Madimba nous en parle.
En tout, l'ONG britannique a épinglé 10 points qui, selon elle, illustrent l'exploitation illégale des forêts en RDC. Lorsque, par exemple, la loi exige pour l'obtention des permis d'exploitation forestière que les exploitants forestiers artisanaux traitent directement avec les communautés locales, ceux-ci s'arrangent toujours pour boutiquer leurs papiers déjà à partir de Kinshasa et descendre en forêt avec déjà leur autorisation en main. La loi recommande aussi que seuls des personnes physiques et uniquement des Congolais puissent exploiter la forêt de manière artisanale. Ces permis examinés à ce jour ont tous appartenu qu'à des compagnies étrangères. Et quand la loi interdit aussi l'usage d'engins industriels pour la coupe du bois, Global Witness enregistre que c'est presque toujours des bulldozers qui sont utilisés, avec comme conséquence donc...
Les populations ne gagnent pas du tout, ils perdent. Parce qu'ils perdent le forêt, avec le forêt ils perdent la nourriture, ils perdent la médecine, ils perdent tout. Le gouvernement gagne peut-être 1% du potentiel économique des forêts.
Un rapport que des collaborateurs du ministre de l'Environnement ont tout de suite tenté de faire passer pour parcellaire et trop sévère, mais que Government and Institution Services, instance internationale de certification des produits forestiers, a tout de suite confirmé comme sérieuse et très conforme à la réalité sur terrain de l'exploitation des forêts en RDC.
Merci Dona Madimba. En réaction, le ministre de l'Environnement se dit d'accord avec ce rapport de Global Witness, mais il rassure en même temps que la situation est en train d'être résolue. On écoute le ministre de l'Environnement, Bavon Samputu, au micro de Dona Madimba.
Nous nous réjouissons que le rapport de Global Witness rejoint en fait celui du gouvernement. Nous, gouvernement, nous, ministère de l'Environnement, nous sommes tout à fait transparents, nous sommes tout à fait cohérents pour échanger, discuter avec les différentes ONG nationales, internationales, pour aller vers le renforcement de la gouvernance forestière. Et c'est les défis du gouvernement, nous devons le relever et rassurez-vous, le gouvernement est parti de manière réfléchie, de manière structurée, de manière durable, à améliorer la gouvernance dans le secteur de la gestion des ressources naturelles. Rassurez-vous, au niveau du gouvernement central, au niveau de mon ministère, à ces jours, nous n'avons délivré aucun permis artisanal. Nous sommes en train de passer en revue de cas avérés. Nous essayons de les confronter avec la panoplie des textes légaux et réglementaires existants en matière de paiement de droits vis-à-vis du trésor public, en matière d'organisation de l'exploitation forestière, paiement de droits et impôts vis-à-vis de l'État. Nous sommes en train de réfléchir sur toutes ces mesures de coercition pour pénaliser les uns les autres. À d'autres pour lesquels nous avons constaté des cas gravissimes de flagrance, nous allons devoir amener des dossiers même à la justice.
Qu'allez-vous faire avec le bois déjà coupé illégalement qui est déjà visible dans certains sites de stockage?
Rassurez-vous que la plupart des bois que vous avez vus sont déjà saisis. Dès l'instant où les procédures administratives seront épuisées, nous allons amorcer des procédures judiciaires.
Voilà, signalons que les forêts du bassin du Congo constituent la deuxième plus vaste forêt tropicale de la planète après l'Amazonie. Elles sont d'une exceptionnelle valeur écologique, 415 espèces de mammifères, 11 000 espèces de plantes, 1117 d'oiseaux et près de 1000 types de poissons d'eau ont été recensés pour la seule République démocratique du Congo. Éléphants de forêt, gorilles, bonobos et okapis sont parmi les espèces les plus emblématiques de cette extraordinaire biodiversité. Joseph Bobia, je rappelle que vous êtes coordonnateur national du réseau Ressources Naturelles. Qu'est-ce qui, d'après vous, justifie ce nouveau rapport de Global Witness? On a l'impression que c'est du déjà entendu.
Oui, merci beaucoup pour votre question. Il faudrait rectifier un peu. Le rapport de Global Witness est intitulé « L'art de l'exploitation industrielle au Congo. Comment les compagnies forestières abusent des permis artisanaux, j'insiste, abusent des permis artisanaux pour piller les forêts de la République démocratique du Congo. » Et ce rapport insiste sur l'exploitation artisanale du bois. Et on a pris le cas seulement de la province de Bandundu. Et, je me dis, une partie de Bandundu. Maintenant, là, nous sommes en train d'organiser une autre étude avec Global Witness pour essayer de couvrir toute la province de Bandundu. Et nous allons aussi, nous sommes en train de mener aussi une autre étude pour couvrir et la province orientale et la province de l'Équateur. Les trois grandes provinces forestières pour ressortir un peu, c'est que l'exploitation artisanale du bois est en train de ravager comme forêt, de la RDC. Et il faudrait noter, monsieur le journaliste, il faudrait noter que l'exploitation artisanale aujourd'hui est en train de damer les pions à l'exploitation industrielle. Les compagnies qui autrefois avaient des titres forestiers et qui les ont perdus, se transforment en exploitants artisanaux. Ils quittent le secteur industriel, disant qu'il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, ils vont dans l'exploitation artisanale. Pire encore, ces compagnies qui vont dans l'exploitation artisanale, en train de contourner les moratoires sur l'attribution des nouvelles concessions forestières, car ces moratoires est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Ces compagnies, disais-je, qui ont perdu les titres, quittent l'exploitation industrielle pour rentrer dans l'exploitation artisanale. Et la majorité, ce sont des étrangers. Alors qu'une compagnie industrielle ne peut pas opérer dans le secteur de l'exploitation artisanale. Aujourd'hui, nous avons, nous, bien avant que Global Witness présente son rapport, nous, société civile environnementale congolaise, nous avons envoyé un mémo au Premier ministre. Le mémo a été déposé le 24 de ce mois et ce mémo reprend un certain nombre de points. Entre autres, le flou juridique entretenu autour des textes réglementaires régissant la délivrance des autorisations d'exploitation forestière, dont les autorisations de coupe, les autorisations des permis de coupe artisanale, Nous avons dénoncé aussi le fait que il existe un arrêté 011, et c'est cet arrêté-là qui crée le problème, qui donne le pouvoir à chaque Congolais d'acheter, de vendre et d'exporter les bois. Mais une autorisation comme ça, on s'est dit, ça c'est du désordre.
Joseph Moubia. Joseph Moubia, je vous redonne la parole. Alors, quand vous dites que les exploitants industriels se déversent, se transforment en exploitants artisanaux, vous voulez dire qu'il n'y a donc pas, il y a absence ou il y a faible mécanisme de contrôle au niveau de l'État?
Effectivement, il y a faible mécanisme de contrôle. Il n'y a pas seulement faible mécanisme de contrôle, mais attention, bien avant de contrôler, c'est le même service qui délivre les permis de coupe artisanale. Alors que ce permis de coupe artisanale devrait être délivré seulement aux sujets congolais, aux personnes congolaises, des nationalités congolaises. Et par an, une personne ne peut détenir que 2 permis, ne dépassant pas 50 hectares par permis. Mais aujourd'hui, nous avons de cas des industriels, des étrangers qui rentrent dans ce secteur de l'exploitation artisanale et qui coupent au-delà de 50 hectares, comme dit le rapport de Global Witness et comme dit aussi notre mémo.
Merci.
Et attention, il y a un élément. Nous avons sonné la sonnette d'alarme pour dire attention, il faut réglementer ce secteur-là. Car il existe un arrêté 035 qui reconnaît le pouvoir du gouverneur de province. C'est le gouverneur de province qui établit un permis de coupe artisanale. Bah, après avis et consultation des services compétents de province.
Joseph Moubia.
Curieusement, je m'excuse beaucoup, curieusement, ce permis... Depuis, donc, les 146 mentionnés par Global Witness sont établis par le gouvernement central.
Voilà, Joseph Moubia, je vous redonne la parole tout à l'heure pour d'autres questions de précision. Michel Bohoto, vous êtes conseiller en charge de la réforme institutionnelle au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Vous avez suivi ce nouveau rapport de Global Witness. Vous avez suivi également l'intervention de Joseph Moubia. Le ministre reconnaît que ce rapport vient rejoindre le constat du gouvernement, mais ce rapport est-il pour vous sévère et parcellaire comme d'autres du ministère de l'Environnement l'ont dit?
Oui, au fait, monsieur le ministre l'a déjà dit, vous l'avez suivi. Le problème, c'est quand vous lisez le terme de l'article 23 du Code forestier, ça donne le ministre la responsabilité de la gestion du secteur. Mais le ministre le fait avec la société civile, avec les exploitants forestiers. Autrement pour dire que la responsabilité de la gestion forestière doit impliquer tout Congolais.
Mais pour d'abord revenir, le gouvernement.
Justement, d'abord le gouvernement. Et le gouvernement n'a pas attendu le rapport de Global Witness pour étaler ses actions. Le ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature, à son arrivée au ministère, il a requis les inspecteurs de finances pour faire l'état de lieu du secteur. Et il n'est pas resté dans son bureau. Vous l'avez suivi, il a été dans le Bas-Congo pour palper de doigts la réalité de l'exploitation, parce que le Bas-Congo est considéré comme la porte de sortie de tout bois qui sont coupés dans le territoire national. Et le ministre a été, on l'a vu partout dans les différents ports de Kinshasa, toujours pour inspecter. Il a initié des commissions. Et aujourd'hui, je vous rassure qu'il y a des commissions qui sont à pied d'œuvre, des commissions de contrôle forestier. Et c'est comme lui-même l'a dit, le ministre n'a pas signé le permis de coupe artisanale, bien que nous savons qu'il y a le principe de la succession des affaires de l'État, mais la réalité est que le ministre est en train aujourd'hui de s'imprégner de la situation et surtout, dans le cadre de la politique du gouvernement, d'assainir le secteur de l'exploitation artisanale. Ce qu'on n'a pas dit, même dans le rapport de Global Witness, c'est qu'il y a la faiblesse d'abord au niveau de la loi. Vous savez qu'en lisant le code forestier, il n'y a qu'un seul article. Et je donne l'article, c'est l'article 112, deuxième alinéa, qui parle de manière incidentielle de l'exploitation artisanale. Et là, j'ai suivi Monsieur Joseph Bobia. Quand tu l'as parlé qu'il y a des Congolais qui exploitent de bois, on autorise les Congolais pour vendre de bois même à l'étranger. Mais je suis surpris, parce que je peux le renvoyer dans le terme de l'article 109, deuxième alinéa. Cet article donne aux Congolais et aux exploitants qui ont des unités de transformation le droit de vendre le bois et d'exporter le bois. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est au niveau de la réglementation du secteur de l'exploitation artisanale. Parce que là, il faut reconnaître que les codes forestiers est faible par rapport à ça.
Il y a, je vous lis un extrait de ce rapport, Michel Bouhoutou. Les autorités congolaises ont régulièrement enfreint leurs propres lois en délivrant ces permis de coupe, commente Colin Robertson de Global Witness. Cela devrait susciter de l'inquiétude parmi tous les acheteurs de bois dur de RDC qui veillent à respecter les législations des États-Unis et de l'Union européenne contre l'importation de bois d'œuvres illégales. Donc les autorités congolaises sont elles-mêmes complices dans cette exploitation.
Rien du tout. Et d'ailleurs, la loi n'interdit pas de délivrer le permis de coupe. Le permis de coupe sont autorisés. C'est comme M. Bob l'a dit. Parce que là, il faudrait que je rentre même à l'historique. Vous savez que le gouvernement de la RDC a initié la réforme dans le secteur forestier. On ne dit pas que 43 millions d'hectares était sous le contrôle des exploitants et était proclamé, et disons programmé à l'exploitation de bois. Mais avec la revue institutionnelle qui est instituée, au moins le gouvernement a obtenu maintenant la récupération de au moins 22 millions d'hectares. La récupération de ces. Donc nous sommes dans le processus de la réforme. Et on n'a pas dit que sur les 151 requêtes en conversion de titres qui ont été introduits, il y a 4, sur les 60 qui étaient acceptés, il y avait au total 80% de sociétés étrangères. Mais les sociétés, ou bien même les Congolais, n'ont été qu'à à peu près à 20%. Or, dans l'objectif de toute réforme du secteur, il y a trois axes qu'il faut prendre en compte. Il y a la gestion durable des forêts, il y a la contribution du secteur au développement économique du pays, et là, je sous-entends la maximisation de recettes, parce que la forêt étant une ressource naturelle, il doit contribuer au budget de l'État. Et derrière ça, il y a aussi la promotion des acteurs du secteur national.
Vous avez fait allusion au code forestier, monsieur le conseiller Michel Bouhoutou, ce code forestier qui a totalisé 10 ans cette année, mais la législation même entretient également ce flou, comme a dit Joseph Bobia.
La législation, ce qui est vrai, le code forestier aujourd'hui, 10 ans après, on découvre qu'il y a des faiblesses. Je peux directement vous dire que le code forestier règle essentiellement l'aspect flore. Mais l'aspect faune, et vous savez, il y a une loi qui réglemente la chasse. Vous lirez la réglementation qui concerne la forêt au Cameroun, ça prend les deux aspects. Le code forestier ne prend pas l'aspect carbone, alors que vous savez, dans ce secteur-là, la RDC nous assume le leadership à travers l'Afrique. Donc, il y a aujourd'hui des faiblesses par rapport au code forestier et dont notamment l'exploitation illégale, l'exploitation artisanale de bois.
Jean de Dieu Minengo, vous êtes chef des travaux à l'Université de Kinshasa, expert en environnement et développement. Dans le rapport de Global Witness, en parlant de la province du Bandundu, et Joseph Bobia a précisé que pour les autres provinces, des études seront menées d'ici là. Au moins 146 permis d'exploitation ont été délivrés entre 2010 et 2012, consommant ainsi un espace équivalent à environ 11 000 terrains de football au lieu de 50 hectares seulement comme l'exige la loi. Peut-on parler de scandale écologique?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que les rapports de l'ONG britannique Global Witness relatent, je crois que tout ce que les autres rapports précédents ont déjà parlé du pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et le deuxième élément que j'ai beaucoup tenu dans ces rapports, c'est le bénéfice que les communautés locales ou l'État congolais lui-même tire de cette exploitation anarchique des forêts de la République démocratique. Je crois que le rapport est clair. Nous sommes même nous-mêmes sur le terrain. On voit clairement que les communautés locales ne bénéficient rien alors de l'exploitation forestière et l'État lui-même. Je crois qu'à travers les rapports, on parle de 1%. Je crois que nous allons lentement mais sûrement vers ce qu'on appelle une catastrophe écologique, comme vous venez de dire. Vous savez que si nous continuons de cette manière à gérer avec beaucoup plus de légèreté nos forêts, je suis convaincu que cela aura sûrement des répercussions sur l'économie nationale. Je prends l'exemple du barrage hydroélectrique. Mais les régimes du fleuve Congo lui-même dépendent de cet écosystème forestier. Si aujourd'hui, et que l'État congolais donne l'autorisation aux entreprises qui transforment les forêts congolaises à un cadavre où chacun doit venir tirer ce qu'il peut faire, je crois que demain, le barrage Linga ne fonctionnera plus normalement et cela aura sûrement des répercussions sur notre compte. Je crois qu'à mon avis, c'est que le problème, ce n'est pas de dire que la loi est présente. Je crois qu'il n'y aura pas une loi qui ne présente pas de faiblesses. Toutes les lois présentent des faiblesses. Mais le problème, à mon avis, se situe au niveau d'abord de l'application et du respect de la loi. Ça pose problème dans cette loi. Et ça, je crois que le conseiller sera d'accord avec moi. Et l'application d'abord de la loi pose problème, parce que moi j'ai le code forestier, presque beaucoup de décrets ou de lois dans le domaine de la gestion des forêts. Je crois que nulle part il est demandé aux industriels d'avoir le permis d'exploitation artisanale. Ce n'est pas possible. Donc tout ça, je crois qu'il se pose un problème d'application des lois. Ce n'est pas au niveau de la faiblesse en elle-même où les problèmes se posent. Le problème de la gouvernance forestière, ça c'est un problème capital. Je crois qu'on en parle beaucoup dans. Il y a eu même des symposiums, des conférences, des colloques. Mais en réalité, sur le terrain, il n'y a pas de changement perceptible. Donc, il ne faut pas qu'on reste surtout dans les déclarations de bonnes intentions, dans un chapelet, de dire, bon, voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Et quand on vient faire l'évaluation, 2 mois, 3 mois ou 1 année après, on tombe sur la même chose. Donc, je crois qu'à mon avis, il faut qu'on aille vers beaucoup plus de pragmatisme, il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup de stratégie et surtout, il faut de la volonté politique au niveau du pouvoir public pour que les forêts de la République démocratique du Congo soient gérées avec beaucoup de responsabilité. Je voudrais dire que les rapports de l'ONG Global Witness peuvent avoir des répercussions sur la scène internationale. Moi, je ne vois pas d'abord au niveau de la vente du bois, parce que ça, depuis très longtemps qu'on a exploité le bois dans ce pays, ça n'a jamais apporté du bonheur à ce peuple qui se trouve dans la misère. Moi, je vois au niveau de la mobilisation de financement international que le pouvoir public congolais pouvait faire à travers le mécanisme. Donc, à travers ce rapport, et je crois que nous ne serons plus très crédibles sur le plan international pour dire, voilà, à travers le mécanisme REIT, vous pouvez nous donner tel montant pour la conservation, pour la réduction de la dégradation des forêts ainsi que des réforestations. Ça, en tout cas, nous ne serons plus crédible sur le plan international pour poser ce genre d'équipement.
Jean de Dieu Minengo, quand vous parlez par exemple de la faible application et du respect de la loi, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Que le gouvernement lui-même n'est pas suffisamment outillé pour faire appliquer ces lois, ou c'est une absence de volonté politique, ou c'est une situation entretenue?
Je crois que, à mon avis, il se pose un problème. Pour moi, c'est la volonté politique qui compte, parce que pour pouvoir faire appliquer la loi, il faut qu'il y ait une volonté. S'il n'y a pas de volonté, la loi ne sera pas appliquée il y aura de l'impunité, il y aura des gens qui vont se situer au destin. Donc, il se pose, en tout état de cause, un problème d'abord de volonté politique. La réalité, c'est quoi? C'est que les questions environnementales dans ce pays, il n'y a pas que la question de la forêt. Quand vous voyez la problématique de gestion des aires protégées dans ce pays, quand vous voyez la problématique de gestion des eaux dans ce pays, la problématique de gestion des déchets, donc tout ce qui a trait à l'environnement, ça ne fait pas partie des priorités du pouvoir politique en République démocratique du Congo. Donc, le plus important, c'est que les questions environnementales reviennent d'abord sur la table du pouvoir public. Que le pouvoir public puisse comprendre qu'on ne peut pas parler de l'économie s'il n'y a pas d'environnement. Vous ne pouvez pas parler de la production agricole s'il n'y a pas de terres qui sont gérées de façon efficace. Le barrage d'Inga ne pourra jamais fonctionner si toute la forêt est décimée. Donc, il faut que le pouvoir public comprenne ça. Donc, à mon avis, c'est un problème d'abord de volonté politique. Et il faut qu'il ait un suivi, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner des permis d'exploitation aux gens. S'il n'y a pas de suivi sur terrain, ça pose problème.
Merci Jean de Dieu Minengo. Parlant de l'exploitation du bois, l'Institut congolais de conservation de la nature, le Conseil de gestion rurale et le service de l'environnement d'Idiofa, situé à près de 130 km de la ville de Kikwit dans le Bandundu, s'insurge contre la coupe illégale du bois scié dans le territoire. Selon le coordonnateur du Conseil agricole rural de gestion d'Idiofa, des planches sciées et des grumes sont évacuées par voie navale et routière sans que la population n'en bénéficie. Adeline Kouaï de la radio Nsemo d'Idiofa.
Les petits exploitants forestiers à la tronçonneuse occupent illégalement la forêt d'Idiofa. Selon les coordonnateurs du Conseil agricole rural de gestion du territoire d'Idiofa, les contrats signés par ces exploitants ne tiennent pas compte des problèmes de la population. Aucune école n'a été construite par ces derniers. Les routes ne sont pas entretenues. Ces exploitants de bois ne créent pas d'emploi pour les villageois, alors que la coupe illégale du bois est à la base des érosions dans ces territoires. Pour les responsables de l'environnement conservation de la nature du territoire d'Idiofa, cette coupe illégale échappe au contrôle de l'État. La plupart des exploitants occupent les galeries forestières alors qu'ils ne possèdent ni autorisation de coupe de bois, ni tout autre document relatif à l'exploitation forestière. Quant aux responsables de l'Institut congolais de conservation de la nature du territoire, il souhaite que les mesures soient prises pour protéger la faune et la flore de ce territoire. Pour lui, il est temps de mettre fin à cette mauvaise exploitation des forêts dans ce territoire. Depuis la cité d'Idiofa, à Délecoué de la radio communautaire Ntemo pour Radio Okapi.
Merci à Adeline Kouaï de la radio Ntemo d'Idiofa. Monsieur le conseiller Michel Bohoto, vous venez de suivre une illustration de plus. Jean de Dieu Minengo a mis l'accent sur la non-application des lois, le manque de respect même des lois.
Oui, c'est-à-dire que notre rôle ici, ce n'est pas de jouer à la défensive par rapport à ces rapports, qui d'ailleurs concourent dans le même sens avec les efforts du gouvernement d'assainir le secteur. C'est vrai que le problème de l'exploitation illégale de bois, c'est vraiment une problématique que moi je qualifierais même d'un fléau par rapport à l'économie de notre pays. Vous savez qu'il y a même un intervenant qui l'a dit. Vous savez que le secteur industriel ne parvient pas, du moins à ce jour, le secteur formel, à atteindre même 500 000 mètres cubes de bois. Donc, mais tandis qu'on évalue à peu près à 1 500 000 l'exploitation de ce type, donc qu'on le qualifie d'exploitation artisanale. Mais le fond, c'est comment résoudre la situation. Et aujourd'hui, je vous dis, il faut reconnaître les efforts que le gouvernement est en train de fournir par rapport à ce secteur-là. Le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature s'emploie pour assainir ce secteur. Aujourd'hui, là, je termine par là, il y a un projet de décret qui est en étude pour réglementer le secteur donc de l'exploitation artisanale de bois. Ça n'a jamais existé. Et même l'arrêté 05 dont on évoque, cet arrêté n'a pas réglé, n'est pas allé au-delà des stipulations du code forestier.
Il y a Franklin Matumaini qui nous écrit de Bukavu. Qu'est-ce qui fait que différents rapports des ONG sur les forêts de la RDC reviennent sur les mêmes allégations chaque fois? Cela peut-il être interprété comme une preuve qu'il n'existe pas une politique en matière de conservation de la nature? Car le fait pour le gouvernement d'accepter l'intégralité de ce rapport démontre sa passivité en la matière, quel que soit le discours, monsieur le conseiller Michel Bohoto.
Au contraire, il n'y a pas de passivité. Au contraire, je parlerai peut-être de la motivation et non la passivité. Parce que je vous dis, le ministre entreprend des actions qui sont visibles. Et ne pas reconnaître ces actions, moi ça m'étonnerait. Parce que au moins, du moins, tout simplement pour le mois qui vient de passer, le ministre a institué la commission au niveau interne pour examiner tout le permis de coupe. C'est-à-dire, le ministre, comme il a dit, il ne signe pas le permis de coupe parce qu'il doit d'abord voir clair. Il a requis les inspecteurs de finances qui sillonnent l'ensemble du territoire national. Vous voyez, ce sont des efforts qu'on doit saluer. Il s'inscrit dans le cadre de l'assainissement du secteur.
Joseph Bobia, Jean de Dieu Minengo a parlé d'un problème de volonté politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, Jean de Dieu a raison. Jean de Dieu a raison. Là où il n'y a pas une bonne volonté politique, c'est pas appliquer la loi. Et on est en train de faire les choses comme si ce sont les individus qui prennent le dessus, alors qu'il faut nécessairement qu'il y ait une volonté politique pour une gouvernance. Je voudrais insister sur le fait que je suis d'accord avec le conseiller lorsqu'il dit que un Congolais peut exporter le bois. Oui, je suis d'accord. Mais l'arrêté 011, avec tous les frais qu'il exige de payer 2500 à 10 000 dollars pour acquérir cette autorisation-là. Et j'insiste pour dire, ces autorisations, bien que ça doit être attribué aux Congolais, mais c'est utilisé par les étrangers pour exporter leur bois coupé de façon illégale. C'est ça le problème que nous nous posons. C'est ça le problème que nous soulevons pour qu'il y ait de l'ordre. Il y a encore un élément. Le bois illégal qui est en train d'être exporté dans le cadre de cette exploitation artisanale, nous devons noter qu'il y a un processus APV FLECT, les accords de partenariat volontaire et FLECT. La RDC est engagée dans ce processus, dans ces accords. Et en 2013, il faudrait que la RDC fasse un effort pour parvenir à la signature de ces accords. Mais à voir la situation de l'exploitation artisanale du bois sur le terrain, il y a risque que la RDC n'arrive pas à signer ces accords au point que les bois de la RDC ne vont pas aller au marché de l'Union européenne. Mais même s'ils ne vont pas aller au marché de l'Union européenne, mais il y a encore le marché chinois. Là, nous devons encore faire attention. Il faut faire attention.
Et donc, Joseph Mobia, et donc, comme a dit Jean de Dieu Minengo, cette exploitation, permettez-moi l'expression, sauvage du bois congolais pourrait avoir des répercussions, des conséquences sur la mobilisation des finances sur le plan international.
Effectivement. Ça peut avoir des répercussions. Je crois, même si on doit considérer que RED peut apporter de moyens, mais aussi longtemps qu'on n'arrive pas à bien préserver les forêts, mais RED risque de ne pas venir parce que on est en train de ravager les forêts.
Donc,
là, je voudrais que les conseillers, oui, je suis d'accord avec lui, mais je voudrais dire aux conseillers que il y a les 80 titres à convertir. Donc, si on pouvait rester avec les 80 titres pour accorder de contrats à toutes ces compagnies qui détiennent ces titres-là, oui, on pouvait très bien avancer.
Merci.
Mais il se fait que les exploitants industriels contractuels, aujourd'hui, oui, nous les voyons sur le terrain, ils disent que ils sont en train de perdre. Et ils perdent même le personnel.
Merci.
Parce qu'ils ne produisent plus. C'est parce qu'ils sont menacés par l'exploitation artisanale.
Merci.
Voulue par le ministère de l'Environnement.
Merci.
Et le ministère central.
Merci.
Donc, il faudrait qu'on remette de l'ordre. Merci.
Merci Joseph Bobian. Le conseiller Michel Bohoto aura l'occasion de vous répondre. Jean de Dieu Minengo, que faut-il pour remédier à cette situation? Vous avez suivi le conseiller Michel Bohoto qui parlait déjà des actions que le ministère a amorcées dans ce sens pour réglementer, pour assainir ce secteur, notamment un projet de décret. Mais il y a des auditeurs qui ont aussi leur point de vue. L'Isungi Pépé de Kisangani en province orientale. Ce pillage se fait avec la bénédiction des autorités du pays, toutes tendances confondues. Combattons d'abord l'impunité avant de chercher à mettre fin à cette situation. Sinon, c'est une façon de prêcher dans le désert, car il y a eu plusieurs rapports dans ce sens qui n'ont rien apporté jusqu'à ce jour. Pierre Shindana, Coco de Bukavu, Sulkivu. Je crois que le problème de l'exploitation illégale de nos forêts a une solution prévue par la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier en son article 144 qui stipule que est puni d'une servitude pénal de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs congolais constant le titulaire d'une autorisation de reconnaissance forestière qui exploite des produits forestiers sans autorisation. Quelle est votre réaction, Jean de Dieu Minengo?
Merci. Je crois que, que ce soit mon frère Joseph, que ce soit les conseillers, je crois que nous sommes tous convaincus qu'il y a un problème sérieux de gestion des forêts en République. Donc, là où je voudrais intervenir, parce que le conseiller du ministre a dit qu'il y a un projet de décret. Je crois qu'il faut, que lorsque nous voulons régler le problème dans ce domaine, il faut éviter qu'on aille vers des raccourcis, des chemins très courts pour pouvoir apporter des solutions. Non, je crois qu'il faut aborder la question avec beaucoup plus de responsabilité pour qu'on mette fin à ces genres et des pratiques qui n'honorent pas vraiment la République démocratique du Congo. Vous voyez, un autre projet de décret. Parce que le problème n'est pas de multiplier des lois. Le problème, c'est qu'il existe, que ça soit d'abord respecté et appliqué. Je crois que l'intervenant qui venait, il y a un auditeur qui a dit que l'impunité. Je crois que tant qu'il régnera l'impunité, où les gens se mettent au-dessus de loi, je crois que tout ce que nous sommes en train de dire, il n'y aura pas de solution par rapport à ça. Et là où je suis d'accord également avec les conseils, quand ils disent que nous, ce n'est pas le problème de dire, de discuter par rapport au rapport, mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? Parce que les rapports de l'ONG Global Witness, c'est un rapport très crédible, je crois que nous tous nous sommes d'accord. Mais le problème, c'est de savoir qui a octroyé à ces entreprises les permis d'exploitation active, qui les a octroyés, et quelles sont ces entreprises qui ont bénéficié de ces exploitations. Donc, on ne se limite pas à des discours et à la fin, on ne punit pas des gens, il n'y a pas de sanctions. C'est l'impunité qui s'installe et le lendemain, on revient sur les mêmes choses et s'imperclivité et le pays n'arrive pas à avancer. Moi, je voudrais dire ceci. Je crois que le pays venait d'organiser le 14e sommet de la francophonie ici à Kinshasa, dont le thème était les enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Et aujourd'hui, deux semaines après, il y a un rapport qui sort qui dit que la République démocratique du Congo gère de façon pas responsable ces forêts. Mais quel est le message que nous voulons donner à tous nos partenaires, à tous ceux qui ont assisté avec nous pendant ce sommet que nous avons traité des questions liées à l'environnement? Donc ce n'est pas très crédible pour nous.
Genre...
Pourquoi moi je pense, je termine pour dire qu'il le faut mettre, comme l'a dit un intervenant, il faut mettre fin avec l'impunité. Il faut une volonté politique, il faut que la loi s'applique. Et là, on peut faire avancer la société. Sinon, on sera toujours avec des déclarations de bonnes intentions sans qu'on prenne les dispositions nécessaires pour faire avancer les choses.
Jean de Dieu Minengo, ne faudrait-il pas, en plus de tous les éléments que vous avez avancés, un budget conséquent au ministère de l'Environnement pour lui permettre de renforcer ses services afin qu'ils fassent mieux leur travail?
Oui, le budget, bien sûr, il faut aussi vous mettre en tête comment ce budget sera également appliqué. Le problème, le conseil qu'on peut donner également, c'est que dans beaucoup de ministères, quand vous voyez aujourd'hui, les fonctions, l'administration de l'État aujourd'hui en République démocratique du Congo a été complètement décapitée. Aujourd'hui, l'administration n'existe plus. Mais qui doit faire le suivi de toutes les mesures prises dans les bureaux climatisés? C'est l'administration qui doit faire ça. Aujourd'hui, l'administration, qu'est-ce qu'elle représente? Elle est représentée. Ce qu'on pouvait demander, c'est qu'il faut réhabiliter l'administration de la République. Si l'administration est réhabilitée, et je crois que ces choses peuvent aller de l'avant. Et deuxièmement, lorsque le ministre veut prendre des décisions, je crois qu'il est beaucoup plus responsable. Je crois qu'il est de façon intelligente d'écouter d'abord les techniciens de votre ministère. Parce que ces gens-là, c'est eux qui connaissent bien des choses sur le terrain par rapport à l'autorité qui a énormément de choses à faire.
Merci.
Je crois que c'est de cette manière qu'il faut essayer de voir les choses.
Merci Jean de Dieu Minengo. Je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'université de Kinshasa, expert en environnement et développement. Et signaler en même temps qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Joseph Boubien, vous êtes coordonnateur national du réseau Ressources Naturelles. Mettre fin à l'impunité renforcer le budget du ministère de l'Environnement, cela figurerait-il parmi les solutions d'après vous?
Je peux l'illustrer par un cas, ou par des cas. Il y a eu des dossiers qui ont été saisis, présentés devant l'administration ou à l'administration sur le bois illégal qui a été coupé. Mais curieusement, par rapport au contrôle, les contrôles n'existent pas, les contrôles ne se font pas. Le même dossier déposé à l'administration, c'est la même administration qui appelle les individus concernés pour dire « on vous a accusé ici ». Et c'est juste pour remettre ce dossier aux individus qui étaient accusés. C'est juste pour dire « il n'y a pas un contrôle ». Et là, on remet le dossier. En remettant le dossier, c'est juste pour ne pas sanctionner. Mais je voudrais aussi insister sur un élément.
En guise de conclusion, déjà.
Oui, oui, j'ai conclu.
Allez-y, je vous en prie.
Ce décret dont le conseiller faisait allusion, nous l'avons décrié. C'est le décret pour une exploitation artisanale semi-industrielle. Si c'est pas ça, je ne sais pas si le conseiller peut me contredire.
Merci.
Si c'est ça, alors nous nous disons, alors qu'on n'a pas mis, on n'a pas remis de l'ordre dans le secteur de l'exploitation artisanale, on va payer, on va fabriquer, on va entretenir un décret.
Merci.
Un décret de l'exploitation.
Merci Joseph Bobia. Souffrez, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Michel Bouroto, vous êtes conseiller en charge de la réforme institutionnelle au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Qu'est-ce qu'il faut, d'après vous, comme solution pour remédier à cette situation? Vous parliez déjà d'un certain nombre d'actions que le ministère a commencé à mener en guise de conclusion.
Oui, en guise de conclusion, je dirais, l'exploitation artisanale, c'est comme je le dis tantôt, est un fléau. Est un fléau parce que nous savons que notre économie est à peu près à 80% informelle. Et le secteur formel de l'exploitation de bois est en but des difficultés maintenant par rapport à cette exploitation artisanale qui est considérée, qui fait une certaine concurrence déloyale. C'est pourquoi nous insistons par rapport à la réglementation de ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, les statuts même de l'exploitant artisanal posent problème. Rien que par le statut. On ne sait pas. Parce que quand on lit la loi de 79 sur le petit commerce, cette loi définit autrement le métier ou le métier de l'exploitant artisanal. Et il n'y a que cette loi, et surtout avec l'arrêté interdépartemental de 1980, qui définit ce qu'on peut attendre par entreprise artisanale.
Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau même de la législation.
Il y a beaucoup de choses, mais aujourd'hui par rapport aux efforts, le ministère a signé un contrat avec SGS dans le cadre des contrôles forestiers. Et le programme à instituer, ça s'appelle programme de contrôle de production et de commercialisation de bois. Vous verrez, à travers la mise en place de ce programme-là, je pense, avec le système d'étiquetage qui va être imposé par rapport à l'exploitation de bois et par rapport par rapport à la mise en place, surtout à l'est du pays, de systèmes de scannage de véhicules, vous verrez qu'on va peut-être
trouver la solution. Jean de Dieu Minengo, quelle est votre conclusion?
Je crois que, comme le conseiller venait de dire, il dit qu'il y a des efforts, il faut absolument fournir des efforts, mais je crois qu'il ne faut pas que les efforts restent au niveau théorique. Il faut que ça soit réellement des efforts où la loi est respectée, où on est avec l'intimité, pour que les forêts congolaises puissent être gérées de façon durable et que cela soit au bénéfice des communautés locales et de la République tout entière.
Et la situation sécuritaire à l'Est ne serait-elle pas une épine dans le pied du gouvernement, brièvement, Jean de Dieu Minengo?
Bon, en fait, je ne pense pas que la question de la guerre de l'Est soit une raison qui fait que les forêts soient très mal gérées au niveau, parce que les rapports ici parlent de la province de Mandoulou, il n'y a pas de guerre là-bas.
Merci.
Donc, je crois que ce n'est pas ça la raison. Et qui va mettre fin avec la guerre à l'Est? La mission du gouvernement, c'est de sécuriser, c'est de mettre fin à ce genre de choses.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Le dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur Radio Capi.